www.libradio.org. www.libradio.org. www.libradio.org.
Nous sommes à l'aune de ce premier festival Melting Grot, ici en plein cœur des grottes à Genève, juste derrière la gare Cornavin, en compagnie de Franck Nat, que l'on remercie de nous recevoir, à l'occasion de cette exposition qui a cours dans la salle du milieu. Donc c'est une structure qui est composée de trois salles, Almacène, salle du milieu et arcade, qui se trouve juste en face du pavillon bleu, derrière le vélo station. Ça, c'est pour situer l'événement pour les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient venir visiter. Et Franck, nous nous revoyons. Nous t'avions laissé cinéaste et on te retrouve artiste peintre. Que s'est-il passé ?
Donc d'abord, j'ai commencé par faire de la peinture et des performances. Le cinéma a toujours été lié, mais pas forcément vu par ceux qui connaissaient mes vidéos. Je voudrais juste faire une rectification. Melting Grot, sous ce nom-là, c'est le premier. En réalité, ça s'appelait Chapiteau Grot l'année dernière. Et comme il n'y avait pas de chapiteau cette année, du coup, ça devient le Melting Grot. Donc je salue l'équipe de Basement et tous ceux qui ont participé à ce festival. Pour dire, c'est effectivement nouveau sous ce nom-là, mais ça fait déjà l'année dernière, vous avez fait un super travail. Et voilà, ils avaient donc présenté et de la musique et des images déjà l'année dernière. Et puis cette année, il s'est trouvé qu'il y avait l'idée de faire une exposition. Moi, je connaissais ce lieu qui est souvent occupé, des fois comme dépôt, qui est un peu entre deux structures. Donc, c'est effectivement derrière la gare de Genève, Cornavin. Et ça a comme particularité d'avoir une mezzanine auquel on n'a pas accès. Une mezzanine en bois qui est assez mystérieuse parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a des rayonnages qui servent de garde-fous. Est-ce que c'était pour un bouquiniste, un antiquaire, on ne sait pas trop. Déjà, il y a une ambiance assez particulière. Et puis un éclairage génital, parce qu'il y a un toit en éternite, un toit en tôle ondulée, dont certaines tôles sont semi-transparentes. Et donc la journée, il y a un éclairage qui vient du plafond. Et il y a une ambiance assez feutrée, assez préservée. Voilà, c'est un lieu entre deux espaces. Et qui est relativement haut vu ses dimensions. Il fait à peu près 7 mètres par 7 mètres. La mezzanine en mange déjà à peu près 1,50 m. Donc il reste un espace assez haut au centre qui fait un volume particulier. Et puis sur cette mezzanine, bon, il y a du chenille, il y a différentes choses qui sont entreposées. Et ma contrainte, c'était de garder la mezzanine en bois, qu'elle soit visible, que les rayonnages le soient, et en même temps, arriver exposé, j'imagine que si on avait mis des choses sur les murs, ça aurait comme nié cet espace, cette mezzanine et ce volume. Donc j'ai utilisé cette architecture en mettant des choses que en haut, et ça se compose de trois fresques. Qui c'est qui pourrait m'aider à la décrire ces trois grandes fresques qui couvrent tout.
C'est une figure féminine, hein ?
Voilà, c'est la figuration. Donc il y a des personnages. Et voilà. Ah, il y a du monde qui rentre, qui sort. C'est dans l'expo, c'est normal. Ça rentre.
Alors, parmi les singularités, on va revenir là-dessus puisque il y en a de nombreuses, mais tu as pu leur donner un relief.
Oui. Donc les fresques, les trois grandes toiles peintes sont comme posées derrière, mais il y a des éléments de la figuration qui viennent en débord, qui chevauchent, qui sortent de la peinture pour aller vers nous. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Donc c'est trois grandes fresques avec des figures, mais des éléments genre la jambe, la main ou d'autres choses sortent de la peinture pour passer sur la rambarde, voilà, sur les rambardes.
Ok. Dis-moi, ces figures, ces personnages qui sont quasiment à l'échelle 1-1, pourrait-on dire ?
Un peu moins, ouais.
Un peu moins.
Ouais.
D'où proviennent-elles ? Est-ce qu'elles sont le fruit de ton imaginaire ? Est-ce qu'elles ont quand même, elles proviennent quand même d'une certaine forme de la réalité ? Pas du tout. Elles sont vraiment.
Alors, quand on arrive dans cet endroit, d'abord, c'est assez curieux pour Genève, c'est cette structure en bois. Et le souvenir, moi, qui m'a frappé tout de suite, c'est un souvenir musical. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est la couverture d'un disque de Marvin Gaye qui s'appelle I Want You, où on voit des personnages qui dansent. Et on est dans un festival avec melting pot de musique et de danse. Donc il fallait que je fasse une référence aussi au mouvement, en tout cas. Et sur cette pochette de Marvin Gaye, il y a une grande mezzanine et des personnages assez filiformes, assez allongés, comme ça, qui ont des grandes jambes, des grands bras, qui dansent, qui sont déhanchés dans tous les sens. Bon, la dimension ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est beaucoup plus grand. Et ouais, j'avais l'impression que c'était comme en modèle réduit, cette ambiance de Marvin Gaye. Puis j'ai regardé et scruté depuis un peu ce qui était écrit et ce que c'était que cet espace représenté sur cette pochette de Marvin Gaye. Et apparemment, c'est marqué à un moment en anglais, je ne vais pas le faire en anglais, cabane à sucre. Et donc, comme c'est que des noirs américains qui dansent, on peut imaginer que c'était un repère, peut-être je me trompe, hein, mais je suppose que c'est ça, c'était une référence à un lieu de fête qui réunissait les gens qui travaillaient sans doute soit dans les cannes à sucre, soit dans les plantations, je ne sais pas où, et qui se retrouvaient pour pratiquer leur musique, qui était évidemment celle qui a donné le rhythm and blues et la soul. Et qui se retrouvaient pour faire la fête, danser, pratiquer une culture qui était en pleine naissance, quoi, tout simplement. Et là, voilà, donc cet espace, c'est évidemment pas la cabane à sucre de Marvin Gaye, mais quand même, il y a quelque chose comme ça de cette mezzanine en bois qui fait le tour de la pièce. Oui, peut-être je ne l'ai pas précisé, mais ça entoure la pièce.
Et quand on entre, ça invite les gens, ça oblige les gens à lever les yeux au ciel. Est-ce à dire que le salut se trouve dans les cieux?
Il y a quelqu'un qui, hier, quand j'ai eu fini d'installer, m'a dit, mais parce que j'ai eu droit à 3 jours et demi pour tout faire, les peintures et l'installation, ce qui était très court, c'était assez intense, assez physique. Et il m'a dit, mais tu es en train de faire la chapelle Sixtine en 3 jours. Alors,
C'est un putain de compliment quand même.
oui, non, mais
Il y a
tout est
pire que Da
faux.
Vinci.
C'est toute mesure gardée, hein, quand même. Mais il y avait un côté comme ça, figuration de virulente et enfin plutôt faite avec énergie. Et aussi, c'est comme des fresques. Et c'est non, mais je sais pas s'il y a une élévation. Moi, c'est beaucoup plus païen et dionysiaque que la chapelle Sixtine. Encore que c'est quand même assez dionysiaque, peut-être Michel-Ange.
Pourrait-on dire. En tout cas, on aperçoit des angelots ou des esprits malins qui sont, eux, beaucoup plus petits et qui naviguent vers l'esprit de ces figures féminines. Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils sont là pour inspirer les choses, pour influencer les personnes, pour nous inviter, nous, à s'imaginer des choses?
Enfin, oui, sans doute, mais c'était aussi pour avoir comme deux plans. Il y a ce plan qui vient vers nous, et puis des figures très calligraphiées, enfin faites de manière gestuelle, comme ça, en quelques traits, qui donnent comme un deuxième plan. Sinon, on aurait eu 6 grandes figures qui font une composition. Très hiératique, un peu posé comme ça en V, ça fait 3 couples de danseurs. Et puis peut-être, voilà, c'était pour garder une forme d'improvisation. Puis peut-être parce que j'avais encore envie de peindre. J'avais tellement de plaisir à retrouver des pinceaux, pouvoir avoir un espace pour moi pour pouvoir travailler le dessin. Ouais. Je crois qu'il y a un vrai plaisir à faire ça.
Les corps dénudés, pourquoi?
C'est un sujet par excellence, le corps.
Non,
Tu
mais
peux
par
marcher,
contre,
hein.
ouais, on peut y aller normalement. Hein. Il suffit qu'il y ait un truc qui tombe. Mais sinon, voilà. Dis-moi, donc, comme tu l'as dit, ce sont 3 couples, en tout cas, ils sont liés.
Voilà, 3 duos,
Ces
trois
figures,
couples.
ouais. Quels liens les rapprochent-elles?
C'est presque les mêmes chaque fois. Elles sont comme dans des mouvements différents, et puis ça, il y a une circulation de l'œil, je crois, qui vont de l'une à l'autre. le lien, il n'y a pas beaucoup de psychologie, hein. C'est quand même, c'est très plat.
D'accord.
C'est un geste pictural et ça ne cherche pas à dire
Ouais.
que c'est un personnage qui raconte ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a une qui a une auréole. Tu dis qu'il y a un diablotin, mais il danse, il y a deux petits traits qui font penser qu'il y a peut-être des petites cornes sur. D'ailleurs, c'est peut-être plus un homme qu'une femme, ça d'ailleurs.
Oui.
Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est fait, qui est de l'ordre du coup de pinceau. Pour peindre comme ça, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un pinceau qui est trop gros pour ce qu'on a à faire. Ce qui fait qu'on a des accidents et l'impossibilité de faire trop trop de détails. Moi, du coup, ça simplifie les formes et dans les autres influences, dans les gens qui sont contentés de peu dans ce qu'ils ont fait, il y a Matisse, il y a des gens comme ça qui ont aimé la ligne avant tout, sans vouloir être ni hyper réaliste, ni représenter un personnage dont on peut dire il représente un pape ou une madame un tel. Non, c'est une figure féminine la plus dénuée de personnalité, de psychologie et de d'arrière-plan, quoi. C'est de la peinture qui s'offre.
Et d'ailleurs, tu as dit, tu as fait ça en 3 jours au total. Donc, est-ce que cette contrainte de peindre vite contient-elle de vertu, tout
Mais ça fait
simplement?
30 ans que je prépare ça. Donc une fois de plus, si jamais tu te concentres et puis que. Moi j'étais plutôt bien organisé en plus, il faut dire ce qu'il y a. Et j'avais l'espace très peu de temps. Vu la surface, c'était peu pour faire ce que j'avais à faire. Et le moindre accident aurait fait que j'étais en retard. Mais voilà, je pense que j'avais surtout tellement envie de le faire que ça s'est fait simplement.
Alors, tu as dit que c'est quelque chose que tu as pensé longtemps.
Mais je
C'est
peins
quelque chose
beaucoup,
qui t'a.
tous les films sont très dessinés chez moi, donc pas les films politiques ou les films pour les causes quoi, pour lesquelles je m'engage, qui sont une manière de mettre au service ce que je sais faire et mon matériel, voilà, au service de choses que je peux défendre, ou les mandats que je fais dans ce sens-là. Mais si jamais je fais un film qui me correspond vraiment, c'est un film qui son seul sujet, c'est le langage. Son seul sujet, c'est le. Avec, une fois de plus, le moins possible d'énigmes psychologiques. Voilà. Je ne veux pas dire tout ce que je ne fais pas, mais il y a des tas de choses que je ne sais pas faire, et à commencer par camper un personnage par ses qualités freudiennes.
Okay. Cela dit, nous sommes effectivement ici encerclés par ces
Tu dis
trois
si je dis des
fresques.
conneries, hein?
Bon, t'inquiète, tu prendras la parole. Et sur ces trois fresques, il y en a quand même deux dont le fond est blanc et une dont le fond est rouge et
En
qui
fait, elles
est.
sont toutes un peu inversées. Oui, tu as raison. Il y a comme une systématique. Autrement dit, elles sont toutes dessinées en traits rouges, parce que le rouge est inactinique. Et si j'avais fait un truc en noir et blanc, c'est-à-dire inactinique dans le sens qu'il se voit beaucoup, j'aurais pu faire quelque chose en noir et blanc, effectivement. Mais je trouvais que par rapport aux couleurs du bois, j'avais tout à gagner à avoir une gamme de couleurs réduite. Et en réalité, il y a un blanc qui est de la dispersion, ce qu'on appelle la dispersion ici, c'est-à-dire du blanc basique. Je ne pouvais pas m'amuser à faire de l'huile ici, vu les dimensions et le budget dont je pouvais disposer. Et il y a deux ocres, mais qui sont très proches, de jaune pâle, on va dire un peu jaune nacre, un peu matiré, et un rouge. Donc il y a trois couleurs. Et je joue sur les trois. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en fond rouge, une qui est en fond blanc et une qui est en fond. On pourrait dire, ouais, c'est un jaune. Avec cette couleur, il est presque gris d'ailleurs. Mais enfin, c'est nacré pour tout dire. Voilà, c'est un rideau que j'ai acheté à la Renfield.
Oui, ça c'est important aussi. Vous travaillez sur des matériaux de récup. Enfin,
Ben, je les ai
au-delà.
achetés, mais c'est des matériaux qu'on a déjà vécu. Mais ils étaient neufs, hein.
Ah, d'accord.
Ils étaient bien. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas abîmés du tout.
Ok. Juste pour en revenir à la contrainte de la vitesse, est-ce que, on l'a compris, tu l'as pensé le truc longtemps, mais pour toi, est-ce que la contrainte de devoir peindre vite dans un délai raccourci, est-ce que ça contient de la vertu pour toi? Est-ce que
Oui,
ça amène quelque chose? Plutôt que.
parce qu'on n'a pas le temps de. Moi, là, je ne pouvais pas avoir de remords, je ne pouvais pas revenir sur ce que je devais faire. ce qu'on appelle en dessin les ressentiments, le fait de revenir sur un dessin, là, c'était pas possible. En plus, je peignais directement sur soit le satin, soit la toile, donc la moindre erreur, enfin, je peux pas revenir. Quoi. Donc, une fois que je dessine, il faut que ça aille jusqu'au bout. C'est quoi la question?
C'était la contrainte de la vitesse.
Ah oui, la
si
contrainte de la vitesse.
Si contenait plus de la vertu ou plus de justement l'inverse et... Ça t'obligeait à filtrer.
Oui, c'est pas seulement un état d'urgence, c'est surtout le fait de se dire là, je vais être en forme et dégager une énergie qui soit la plus claire possible, une énergie qui soit la plus dégagée de contingences, la plus propre possible. Quoi. Ouais. Oui, j'aime bien ça, bien sûr. Il y a une virulence. Il y a une virulence dans le trait, peut-être pas spécialement dans tout. Si, dans les petits surtout. Dans les petits, on voit que c'est fait en une fois, quoi. Mmh. Donc, si ma main loupe ou si je suis dérangé, bah, ça sera dans mon trait.
Ouais.
Et il n'y a pas de loupé, en fait. Il n'y a pas d'échec. Je crois qu'il y a quelqu'un auquel on pense rarement dans ce sens-là, mais c'est Andy Warhol qui, finalement, accepte les accidents fortuits, tout ce qui peut arriver, mais aussi ce qui est censé être raté. C'est difficile peut-être à comprendre pour tout le monde, mais les meilleurs films sont souvent des films ratés. Soit parce que le défi est trop haut qu'on n'y arrive pas, mais la tentative en elle-même suffit à justifier le film. Soit parce que c'est un moment de la réalité et que dans la réalité, il y a aussi nos limites. Et moi, je l'ai ressenti, vu dans Andy Warhol, quand il faisait ses films, par exemple... quand les gens dormaient, ou bien voilà, des fois ça loupe un peu, mais dans ce loupé, c'est des loupés purement humains. C'est des loupés, donc lui il dit je vais jusqu'au bout de ma bobine. Donc son chargeur de caméra, c'était une paire Bolex qui acceptait des bobines de 33 mètres, donc ça fait un peu moins de 3 minutes, 2 minutes 40. Et à partir du moment où il appuyait sur le bouton, il allait jusqu'au bout. Mais la durée du film était donnée par le matériel. Mais lui savait que sur ces 2 minutes 40, c'était un moment de réalité partagée. Donc, si jamais il y avait un accident, il l'acceptait. Et des fois, ça loupe. Ou alors, il a grillé le début parce qu'il a ouvert son chargeur et qu'une partie après la lumière, ben, il a gardé ça. Dans les originaux, je parle. Hein. Après, ceux qui projettent ça et puis qui enlèvent le début ou la fin, ben, tant pis pour eux. Mais ouais.
Ouais. D'accord, je comprends bien l'analogie. Là, on a en plus gigantisme des choses qui forcent, comme tu l'as dit, hein, qui forcent très. Donc on verrait immédiatement, on voit d'ailleurs, finalement, il y a une manière de faire qui révèle tout ce que l'on a fait, on ne peut rien masquer. Puisque
non, là, on ne peut pas masquer. Surtout voilà, sur le tissu satin comme ça. Ouais. De toute façon, si mon trait rouge, une fois qu'il est posé, je ne peux pas le gommer. Hein.
Ça, y a pas... Exactement. Donc, il y a une forme, finalement, du mise à
nu. Il y a un pied complètement raté, là. Hein. Le deuxième, là, celui qui est dessous. Ah. On ne voit pas trop, un peu, quand même. Je m'y suis pris deux fois. J'ai fait un peu trop petit, un peu trop grand. On voit tout. Bon, ce n'est pas grave. Il n'y en a qu'un. Non, ce n'est pas que ce n'est pas grave. C'est que c'est vrai.
Exactement. Alors... Est-ce que ça dit quelque chose de l'auteur, cette volonté de faire comme ça?
Moi, j'en serais bien incapable de répondre, mais j'espère, oui. Parce que aussi, c'est ce que j'aimais dans la performance, qui est complètement dénaturée aujourd'hui, qui est complètement galvaudée, c'est que la performance, pour moi, c'était, et ça l'est toujours, mais c'était un acte qu'on ne pouvait pas réitérer. C'était un acte, une fois qu'il était parti, il était unique.
Ce trait grossi comme ça révélait quelque chose de l'artiste. Si ça disait quelque chose de toi, ou bon. Si toi, tu constituais au fil de cette trame-là...
Et William, moi, je n'ai jamais dit que j'étais artiste. Hein, c'est un mot que je n'utilise pas. Je trouve que c'est un mot que je respecte trop pour savoir si moi, j'en suis un. Si je veux parler de moi, je pense que j'ai passé ma vie, sans le souhaiter, à être choisi pour des expériences, à plein de niveaux. Donc, le mot expérimental, pour moi, c'est quelque chose de très... comme le mot improvisé, mais il faudrait passer du temps pour dire ce que c'est. Mais c'est quelque chose de très fondateur. Et là, si on voudrait venir sur les peintures qu'on monte, Elle est présentée, s'est présentée avec ses accidents. Il n'y en a pas énormément, mais enfin suffisamment pour se rendre compte que c'est fait sans filet. C'est fait en une fois. Qu'il faut un peu de savoir-faire pour faire des nues qui font 2 mètres de haut, tout bras étendu et jambes tendues en une fois, un petit peu. Mais ce n'est pas très important ça. Et donc ce côté performance, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire de quelque chose qui va vers l'unique, qui va vers le moment qui est non, on ne peut pas le faire 2 fois, me correspond, ça c'est sûr. Et
Et
c'est
puis
ça que je mets dans la performance et je ne comprends pas qu'on puisse appeler performance autre chose que ça.
Il y a également une sortie de la zone de confort, une prise de risque,
Oui, voilà.
c'est aventureux, il y a beaucoup de
Ouais.
choses quand même. Enfin, je trouve que ça en dit long quand même sur la posture de la personne qui produit l'œuvre, tu vois.
Oui, on partage un moment quelque chose. En tout cas, on fait un acte qui est parti pour être pour faire un acte qui a un début, une fin, et c'est ça qu'on va montrer. Pas quelque chose qu'on va hacher en plusieurs bouts, modifier par des effets. Là, il n'y a pas d'effet. Hein.
C'est
Il n'y a
brut.
pas de modelé. On peut dire brut, mais en même temps, c'est pas le premier mot
C'est
qu'on
vrai.
pèle, on pense quand on le voit. Mais c'est brut. Moi, je refuse pas ce mot du tout. Il y a un côté direct, frontal, peinture. 2 dimensions. Et un peu moqueur parce que c'est une fausse 2 dimensions, puisqu'il y a des éléments qui sortent de la peinture et qui viennent, mais qui restent en 2 dimensions, qui sont de la toile. J'aurais pu le faire en CP, de manière coupée très. Avec une scie sauteuse, j'aurais pu. Mais là, là, c'est des bouts de toile. Mais ça reste de la 2 dimensions, malgré tout. Même si elle chevauche la rambarde en bois, même si elle passe dessus, dessous, elle se pose dessus. Un coup, c'est la poitrine, un coup, c'est la jambe, un coup, c'est le coude, une fois, c'est la main. Il y a des morceaux qui viennent comme nous narguer un peu, quoi. Mais qui ne cherchent pas à masquer le reste. Tout est visible.
Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi, ce va-et-vient peinture-cinéma. Et la question qui va avec, c'est, parce que moi, ça m'a fait penser, tu vois, à ces films, La Rose pourpre du Caire, où le personnage sort de l'écran
Ah oui.
et vient vers nous. Et là, on a une peinture qui sort de l'écran
Un
et qui
peu,
vient vers nous.
ouais.
Je me demandais si pour toi, qui es également cinéaste, il y
Ben,
avait ce
c'est pas que
lien-là,
j'ai
tu
oublié la caméra, mais c'est je sais pas ce qu'il y a de cinéma là-dedans, peut-être un peu les cadres, le fait que c'est quand même décor en mouvement, donc c'est ce qu'on demande à un plan de cinéma, c'est pas contrairement à la photo, on demande à ce que les choses soient en mouvement.
Parmi nous, peut-être des questions. Non, non, il n'y a pas de souci, il faut y aller, il faut venir, il n'y a aucun
Viens,
problème.
Nathalie.
Vous êtes welcome. Des questions parmi nous qui surgiraient? D'accord. Alors, cette œuvre, elle va rester ici jusqu'à ces 3 prochains jours. Hein.
Alors, elle reste jusqu'à dimanche. Donc, aujourd'hui, on est le 1er septembre, jusqu'à dimanche 20h, le 3. Encore demain et dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que vous diffusez ça. Donc,
Ce soir.
très bien. Donc, encore samedi et dimanche.
Toi, tu seras là plus ou moins tout le
Moi, je
temps
serai là tout le
pour.
temps, donc
D'accord. Les gens peuvent se
de
questionner.
10h. Oh, ben, ils ne vont pas me torturer autant que toi, j'espère. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Mais de 10h à 20h tous les jours. Voilà. Il est un peu question depuis tout à l'heure qu'un festival s'approprie ça, mais on en saura plus demain.
D'accord.
Donc je ne peux pas encore trop dire, mais il parlait de garder les peintures pour un festival qui va avoir lieu ici. Mais je n'ai pas la confirmation, quoi.
Mais a priori, ces toiles vont poursuivre, ont un
Ouais, mais
avenir.
pas forcément ailleurs. Je ne sais pas ce qui
D'accord.
va se passer. Je ne me suis pas posé tellement de questions sur les suites de ce qui allait se
Ok.
passer.
Et pour en finir, est-ce que tu as déjà eu d'ores et déjà des retours de personnes qui sont venues visiter cette exposition et qui sont venues vers toi, qui
Oui.
t'ont.
Alors, il y a eu des choses sur le livre d'or, mais je n'ai pas pris le temps de mettre mes lunettes pour lire ce qui était marqué. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai eu comme retour? Il y a eu le coup de la chapelle Sixtine qui était drôle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Des regards, peut-être même, tu sais, des
Ouais.
fois, ce sont des regards fugaces. On voit, hein, les gens, la manière dont on visite une expo. Est-ce que les personnes se mettent dans une posture centrale et justement entrent
Alors
dans ce
oui.
cul-de-sac, ou est-ce qu'elles prennent des angles différents?
Alors il y a eu une personne qui a quand même circulé dans l'expo au moins 10 fois à traverser la pièce. et qui n'avait pas vu l'exposition, faut dire que, comme toi, William, elle gardait la casquette, et ce qui fait que ça ne lui permettait pas de voir au-dessus.
Ouais,
Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas ta casquette à l'envers, histoire de voir ce qui se passait au-dessus? Du coup, il l'a regardé, il n'avait pas vu qu'il y avait une exposition dessus de sa tête. Parce que, ouais, si on regarde le sol ou à l'horizontale, on peut passer à côté.
Voilà, on peut
faut
la
le faire quand même. Hein.
Il faut le faire, on peut l'attraper.
Faut le faire. Hein. Ça fait quand même 4 mètres de long 3 fois par 3 mètres de haut.
Non, mais de nouveau, pour en revenir, et on aura donc bouclé la boucle, c'est vrai que ça appelle à lever les yeux au ciel.
Oui, un peu.
Et puis lever les yeux au ciel, ça veut dire aussi peut-être se désintéresser partiellement de sa corporalité pour s'intéresser à autre chose.
Ben, y a une chose qui est évidente, c'est qu'on vit énormément avec les yeux en bas aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est parce qu'on est battu? Est-ce qu'on est parce qu'on est brimé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on a les yeux rivés sur des écrans, on a plutôt tendance à avoir les yeux dirigés vers le bas, beaucoup moins pour que, je sais pas, Saint Thomas d'Aquin ou tous ceux qui se sont mis à regarder ce qui se passait au-dessus.
Absolument. Tu es là également à l'envers du cours de l'histoire. Dans quelle référence, t'as vu? Saint Thomas d'Aquin. Alors d'un côté, c'est Saint Thomas d'Aquin versus iPod. C'est pas... Non, mais là aussi, tu es également à l'envers de l'histoire parce qu'effectivement, on est dans un cours des choses qui nous mène à nous courber. Et
mais
l'idée
oui.
de ton expo, Franklin, c'est justement à l'inverse, de prendre une grande inspiration.
Mais c'est toi qui a remarqué ça particulièrement, et c'est bien, je te remercie. Moi, je trouve que ça me fait plaisir qu'on lève le menton à tout point de vue.
Ben, c'est avec plaisir. Et puis pour moi, c'est également, alors pour te dire carrément ce que j'en pense, mais il faut que l'on cesse de battre sa culpa, tu vois, et d'être toujours dans cette espèce d'attitude, effectivement, de repli, et puis de prendre un grand bol d'air. Ça libère les neurones, ça libère le cœur, ça libère l'humain en général. Donc il me semble que cette expo y contribue.
Ah bah écoute, c'est super, ça me va très bien.
Franck, là, je te remercie beaucoup.
Merci
Bonne
beaucoup.
Chance pour la suite, et puis nous nous retrouverons voilà. pour la suite des opérations.
Où
es-tu? Oui.
Non, mais c'est juste pour la fin, j'ai mis de la musique, on va juste...
Ah bah oui, très bien.
J'ai choisi quelques morceaux qui date de Marvin Gaye, mais j'ai pas voulu. Le seul point commun entre tous, c'est que il date à peu près de soit de ma naissance, soit de celle du morceau de Marvin Gaye. Et là, c'est Bette Davis. On peut retrouver tous les éléments du festival Melting Grot sur leur site, sur Facebook, et la vidéo sur alachaîne.ch.
Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin, comme l'odeur de la victoire. Ça ne durera pas toujours, cette guerre.
Libre Radio, la radio du grand soir et des petits matins. www.libradio.org.